N'as-tu une pour Philippe Lapéry?
Ah, bon, tiens, hey,
Philippe,
bon
c'est
gardant.
La tienne, celle-là.
Salut mon ami Robert, salut ma belle Isa.
Allô, hey, on est content de t'avoir avec nous cet après-midi.
Ben oui, on voulait parler
de champagne. Je suis content d'être avec vous autres.
Hey, champagne, quand on dit champagne, c'est-tu bien Dom Pérignon qui a inventé le champagne?
Ben en fait, le moine cellerier de l'abbaye d'Auvillée, Dom Pierre Pérignon, a grandement collaboré, en fait participé à la création de bien des choses, mais il n'a pas inventé le champagne.
Ah.
Puis premièrement, faut pas oublier que Dom Thierry Ruinard, qui était son partner, lui a passé un peu à l'ombre, alors que la maison Ruinard, c'est la plus vieille maison de champagne, elle date de 1729. Mais ils ont travaillé ensemble pas mal toute leur vie, mais Pierre Pérignon de son nom, était non-voyant. De sa naissance jusqu'à sa mort, jamais rien vu, donc il avait des sens qui était un peu plus mieux que les nôtres, je peux le dire comme ça. Il a inventé le fait de mettre un bout de liège sur une bouteille de verre. Il a inventé le fait de faire des bouteilles un peu plus larges, plus épaisses, pour qu'elles arrêtent d'éclater. Il a inventé les assemblages, de mélanger des chardonnays, des pinots noirs selon les régions, les villages. Donc, il a collaboré, mais le champagne, il s'est inventé tout seul. Parce que c'est une deuxième fermentation qui était faite dans la bouteille. C'était un peu une erreur de la nature. Puis la nuit, les bouteilles éclataient. Puis à l'époque, au 16e, 17e siècle, ils appelaient les bouteilles du diable. Ils se levaient le matin, puis les bouteilles avaient explosé dans les caves. Mais c'est tout simplement qu'il y avait une deuxième fermentation parce qu'il y avait encore un peu de sucre dans les bouteilles. Puis ils éclataient. Donc, Dom Pérignon a collaboré à dire, OK, non, on est capable de tirer le meilleur de tout ça en faisant des plus grosses bouteilles, plus solides, puis mettant un petit bout de liège à travers ça. Donc, c'est un grand, grand bonhomme. On lui doit beaucoup, mais le champagne, il s'est fait naturellement, tout simplement.
Hey, mais on aime ça, les erreurs comme ça, vraiment, là, on est content.
Il pourrait en faire plus souvent. Hey,
c'est ça.
Mais on aime le champagne, pourquoi? Puis je pense que les Québécois, on est festifs. Puis malgré, tu sais, si on fait fi un peu de la COVID puis de la pandémie mondiale, au Québec, on est des gens, on se trouve des excuses. Je pense qu'on n'attend pas juste une augmentation de salaire, un diplôme d'universitaire qui rentre par la malle, un mariage, ou même un divorce, parce que oui, un divorce, ça peut être heureux aussi parfois. Mais on dirait qu'on au lieu d'attendre la bonne occasion pour ouvrir une bouteille de bulle ou de champagne, on crée des occasions. Parce qu'en ouvrant une bouteille de bulle, ça rassemble les gens. Puis le son, avouez que le son, tantôt, Robert, qu'on a entendu, ça nous met un sourire au visage. Le son d'un bouchon de champagne qui explose, qui monte, on dirait que c'est quelque chose de festif. C'est rarement triste. C'est un moment qui est rassembleur encore plus, selon moi, qu'une bouteille de vin. C'est vraiment un moment où on a quelque chose à fêter, célébrer. Donc, je pense qu'on se doit d'avoir davantage de vin mousseux ou de champagne sur nos tables et de comprendre qu'il n'y a pas seulement le champagne qui fait la zone champenoise qui fait des grands vins effervescents. Il y a des mousseux un peu partout sur la planète qui sont vraiment délicieux.
Complètement. Puis on dirait qu'avant le champagne, on pensait qu'on buvait ça avec le petit doigt en l'air, alors que maintenant, il y en a plein des champagnes abordables ou des mousseux abordables, finalement, qui sont accessibles.
T'as raison, Isa. On a tout ça, les snobeliers, tu penses, les gens qui ont le nez en l'air? Ça nuit à notre profession. Puis oui, c'est vrai que longtemps, on dirait que c'était réservé à l'élite, puis la grande hiérarchie, puis les peuples bien nantis. Puis c'est vrai que le champagne, c'est pas donné non plus, même si, puis je pourrais vous donner deux, trois noms, si vous voulez, il y a de plus en plus de maisons champenoises qui nous offrent des vins de cette zone-là, qui est une petite zone à 150 km à l'est de Paris, à une heure et quart de route. Habituellement, tu sais, on parlait des Veuves Clicquot, des Pommeries, Moët et Chandon, dont Laurent Perrier, des marques très connues qu'on va payer entre 55, 60, 75 $. Puis c'est correct, tu sais, je veux dire, c'est ces grandes maisons-là qui ont fait qu'on connaît plus le champagne. Mais depuis 5 ou 6 ans, la SAQ a vraiment ouvert la porte à des petites maisons qui font des champagnes, mais de façon un peu plus anecdotique, qui rentrent au compte-gouttes au Québec. Donc, des champagnes entre 40, même à partir de 36, 37 $ jusqu'à 50 $ qui peuvent nous donner des fois encore plus de plaisir que des grandes maisons très connues. Je pense à Gardet, Gruet, Vincent Couche. Si vous en avez en Mauricie, je ne sais pas si vous avez un ordinateur pendant qu'on fait le petit topo ensemble, puis regardez, Vincent Couche, C-H-E, qui est une maison champenoise qui nous livre un champagne à 52, 53 $ qui est ravissant, qui pourrait culotter bien des champagnes à 60, 65 $ parce que c'est fait par un petit vigneron qui fait du vin à échelle humaine et qui n'est pas trop gourmand au niveau du prix. Donc, il faut fouiller. C'est correct, les grandes marques, mais il y a des beaux champagnes qui peuvent nous donner des super émotions en dégustation et souvent, c'est des producteurs qui sont vraiment moins connus.
Et ceux qui sont à l'extérieur de l'appellation contrôlée champagne, là, est-ce qu'ils fabriquent la bouteille avec la méthode champenoise?
C'est une très bonne question. Parce que la fameuse méthode champenoise, qu'on appelle méthode traditionnelle, elle a été reprise un peu partout. Puis il y avait des gens qui faisaient à peu près n'importe quoi comme type de mousseux en reprenant méthode champenoise. Et ça plaisait pas du tout à cette zone-là, qui fait selon. Qui reste quand même un terroir inimitable. C'est juste champagne, ça reste le champagne. Puis probablement que les meilleurs mousseux de la planète sont faits là. Et maintenant, il faut vraiment utiliser des méthodes traditionnelles où c'est vraiment une façon de créer une deuxième fermentation dans la bouteille. Donc, en ayant une deuxième fermentation, il y a un petit peu de gaz carbonique qui se dégage, mais il y a un bouchon, fait que c'est coincé. Ce qui fait que quand tu enlèves ton bouchon, ben ça éclate parce que le gaz carbonique est coincé à l'intérieur. D'ailleurs, faites attention en ouvrant une bouteille. Une bouteille de champagne peut avoir jusqu'à 5, 6 atmosphères de pression. Le premier pied que le bouchon sort, si vous le laissez aller, c'est à peu près 100 ou 150 km/h. Donc, si c'est un jeune champagne bien vigoureux, bien dynamique, bien énergique, comme Isapéron,
oui.
ça peut vraiment être dangereux. Donc, tenez-le bien. Puis oui, pour répondre à ta question, la plupart des mousseux dans le monde sont faits en méthode champenoise, même s'il y a d'autres façons de faire de la bulle, comme les Moscato d'Asti ou certains Prosecco, qui sont faits vraiment d'une façon qui est différente. Mais on s'entend que les plus grandes bulles de ce monde sont vraiment faites avec une deuxième fermentation en bouteille, donc ce qu'on appelle la méthode champenoise.
Et de plus en plus, on fait du mousseux également au Québec. Ça commence aussi tranquillement.
Aller faire un tour dans, tu sais, puis je vais souffler dans ma trompette parce que je suis un petit gars de l'Estrie, puis tu connais bien ce coin-là, Isa. Aller faire un petit tour à North Atlee, qui est un des plus beaux villages au Québec, un des plus romantiques. Là, si tu veux que ta blonde retombe en amour avec toi, tu l'amènes à North Atlee, sur le bord du lac Massawippi, et tu vas visiter le domaine Bergeville. C'est un petit couple, Eve et son chum, je me souviens pas son nom, qui sont en biodynamie. Ils ont comme 3-4 hectares de vignes, c'est minuscule. Ils font des vins mousseux hallucinants qui vont coûter, vous allez me dire, 30-35 $. C'est toujours drôle parce que ça nous fait rien de mettre 30-35 $ pour un mousseux d'ailleurs, mais on dirait qu'on est un peu frileux à mettre 30-35 $ pour un vin québécois, mais mettez-le, parce que si vous êtes capable d'en trouver, des fois, il y en a un SAQ, mais si vous allez dans ce coin-là, c'est un mousseux qui est délicieux, puis je pense que le Québec, c'est un super bon point que tu lèves là, Isabelle, le Québec devrait miser davantage sur les vins mousseux. N'oubliez pas qu'on a un climat qui peut être un petit peu comparable. Tu sais, les grandes bulles de ce monde sont pas faites dans des régions extrêmement chaudes. Mmh. On a besoin d'acidité, on a besoin de vigueur. C'est plate un champagne qui est pâteux. C'est plate un mousseux qui a. Il faut que ça soit nerveux, il faut que ça soit pimpant, il faut que ça soit al dente, comme des pâtes. Et au Québec, on s'entend qu'avec notre climat qui est assez froid, on va se le dire, je pense que c'est très prometteur. Il y a davantage, j'en parlais justement avec un vigneron en Estrie ce matin, il faut tellement miser sur les bulles au Québec. Puis il y en a d'excellents, là, je vous parle de domaine Bergeville, mais il y en a bien d'autres qui font des mousseux qui sont à l'île d'Orléans, Louis Deneau, vignoble Saint-Pétronille, fait un mousseux qui est libéré à 30-35 $, ben il vend sa production à peu près en une heure à chaque année. Donc, il y a vraiment un buzz là-dessus. Il faut que ça soit bien fait. Ce n'est pas parce que c'est québécois qu'automatiquement, ça va être bon. Mais il y a de plus en plus de super mousseux qui sont faits sur notre terrain de jeu, dans notre province de Québec.
Il y a Jean qui pose une question via les médias sociaux. Il demande, pouvez-vous lui demander si le champagne Victoire, il est OK?
Champagne Victoire, c'est drôle parce qu'il nous libère souvent des bouteilles régulières, mais il y a aussi des magnums, parce qu'à partir du mois de novembre, la SAQ, depuis 5-6 ans, nous livre beaucoup de magnums. Je pense qu'ils ont compris que les Québécois, on est festifs, on aime les gros formats, on aime les formats de 1,5 litre. Puis, tu sais, c'est sûr que là, avec la pandémie, vous allez me dire, on peut pas recevoir, mais outre ça, le Champagne Victoire est libéré en bouteilles régulières et en magnum. C'est pas un grand champagne, on va se le dire, mais c'est un bon champagne qui est efficace, qui est plaisant, qui est le fun. Si vous fouillez un petit peu, on est à peu près à 50 $, peut-être 45-50 $. C'est une bulle qui est satisfaisante. Je suis pas le genre à donner des notes sur 10, mais disons qu'il aurait la note de pas cher sans problème. Mais c'est pas un champagne qui va vous donner, qui va vous faire lever les poils ses bras à chaque gorgée, contrairement à bien d'autres vins mousseux qui peuvent le faire aisément.
Il est bon en tabarnouche.
Ça n'a pas de bon sens.
Moi, je le garderai encore longtemps.
Oui, Philippe, on aimerait ça te garder jusqu'à 16 h.
Yolaine qui dit « Waouh, quelle chronique, c'est extraordinaire. N'oubliez pas de plugger ma compagnie privée d'importation juste des bulles. » Alors voilà, Yolaine, c'est fait.
Ça suscite,
ah oui,
oui, mais ça suscite l'engouement, mais c'est un sujet rassembleur. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous cherchez de la lecture, tu as sorti récemment également ton 10e guide « Bon vin, conseils et anecdotes ». Il y a plein d'histoires également là-dedans. C'est agréable aussi parce qu'on peut lire et en apprendre davantage. Puis on dirait que quand on a l'histoire de la bouteille derrière, ça goûte différent. On dirait qu'on peut apprécier davantage le vin qu'on boit.
Totalement. Je pense que chaque bouteille de vin, puis on en a déjà parlé avec Robert, chaque bouteille de vin a une histoire, une anecdote, une tradition, une famille en arrière de ça. Puis c'est ça ma job de marchand de bonheur, c'est d'aller fouiner, trouver ça. Puis tu parles de bulles, puis tu parles du livre. C'est drôle parce qu'il y a un article dans le livre que j'ai marqué, que j'ai rédigé, qui est en lien avec le Titanic. Savez-vous que le Titanic n'aurait peut-être pas coulé, les amis?
Ah, voyons.
Vous êtes surpris, hein?
Ben oui.
Savez-vous qu'à chaque fois qu'il y a un gros bateau de croisière comme ça, on a-tu encore une petite minute, mon ami Robert?
Ben oui.
À chaque fois qu'un bateau de croisière comme ça part pour la première fois de son port, là, il partait le Titanic en 1912 ou 1914, de Southampton dans le sud de l'Angleterre, et la compagnie White Star, qui avait le Titanic, c'était à eux, et ils ont fait fi d'une règle, d'une coutume, d'un mythe extrêmement important. Chaque fois qu'un bateau part pour la première fois, il faut lui donner l'apéro. Dans le sens où on prend une espèce de gros 6 litres de champagne avec une corde, on l'attache au devant du bateau et on l'éclate sur la coque.
Ah.
Donc, sur le devant du bateau, évidemment, ça s'éclate un peu partout dans le port. C'est pas super environnemental, vous allez me dire, mais j'imagine qu'ils ramassent ça. Et ils font ça. Tapez sur Google, vous allez voir baptême de bateau, ou ils font toujours ça. Et la compagnie White Star, je sais pas s'ils croyaient pas à ça, ou ils étaient peut-être, entre vous et moi, un peu trop gratteux pour le faire. Et lisez l'article sur le Titanic aurait peut-être pas coulé, et vous allez voir qu'ils ont pas donné l'apéro, je peux dire comme ça, au Titanic. Et le reste de l'histoire, ben vous le savez, a été oscarisé avec Leonardo DiCaprio, puis le film en 97 qui raconte l'histoire vraie de ce gros navire qui a sombré au large de Terre-Neuve à 3,8 km parce qu'on y avait pas donné une maudite bouteille de champagne.
Donc
c'est ça, vous comprenez le vin pour moi, c'est la petite histoire, le fun qui va avec. Puis c'est exactement ce que vous allez trouver, comme tu disais, Isabelle, dans mon livre. C'est des histoires, c'est des conseils, c'est des péripéties, c'est des anecdotes des 20 dernières années. Tu sais, je suis encore un petit Beaujolais nouveau, là. J'ai pas eu la chance de traîner mes bottines partout sur la terre. Mais les 20 principaux pays qui font du vin, j'ai eu la chance d'y aller. Et à travers ça, j'ai fait des rencontres souvent inattendues, hyper fortuites, mais des rencontres qui ont été marquantes. Puis c'est exactement ça que vous allez retrouver dans le livre. Des aventures, puis des trucs de voyage qui sont le fun, puis j'aime pas utiliser des grands termes, puis on n'est pas là pour épater la galerie. Tout le monde va bien comprendre. Puis bien sûr, comme on se disait la semaine dernière, Robert, vous allez retrouver ce que vous voulez, les 200 meilleurs vins qu'on a goûtés à travers la dernière année à la SAQ, qui sont disponibles et abordables, bien sûr. Donc, c'est un guide qui est complet. On veut pas souffler dans notre trompette, mais je pense que notre 10e édition, c'est notre plus belle à ce jour.
Merci beaucoup, Philippe Lapéry.
Vous êtes fin. Salut, les amis à Mauricie. Bonjour à tout le monde.
Bye-bye. Il est toujours excellent.